Eh bien, bienvenue pour cette troisième séance sur Luther. Je vais essayer ce soir de voir en quoi il y a déjà dans les 95 thèses toute la théologie de Luther. Bon, j'avoue que je me suis un peu noyée dans la théologie de Luther, parce que finalement, il y a tellement de choses chez Luther que c'est difficile de faire le tri. Il y a une richesse, et puis en plus de ça, c'est un personnage complexe et paradoxal. Et je pense que je vais peut-être approfondir ce côté justement paradoxal. Donc vous m'en excuserez. Je risque de ne pas être toujours extrêmement claire, donc n'hésitez pas à poser des questions après, parce que la théologie de Luther est compliquée. Donc, bon, les grands principes, j'en citerai quelques-uns. Je commencerai par celui-là, la thèse 62. Le vrai trésor de l'Église, c'est le sacro-saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. Thèse 62. Si j'ai choisi cette thèse, à mon avis, à partir de cette thèse, on peut pratiquement déployer toute la théologie protestante, je dirais même. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y en a peut-être qui savent, mais d'autres ne savent pas. Il y a ce qu'on appelle les grands principes du protestantisme. Il y en a 3, 4, 5 ou 6 suivant les avis. Mais en tout cas, je vais vous les citer, ces 6 grands principes du protestantisme. Et on les trouve déjà dans les 95 thèses. Alors, les 6 principes, c'est la grâce seule, la foi seule. Je vous l'ai dit en français, hein. Quand on est lettré, on les dit en latin, mais comme je ne connais rien au latin, je vous l'ai dit en français. La Bible seule. Ensuite, il y a se réformer sans cesse. C'est celui que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais je pense que tu en as déjà pas mal parlé au niveau, parce que c'est l'Église, tu as déjà pas mal parlé de ça la semaine dernière, donc je l'aborderai moins. Ensuite, il y a se réformer sans cesse, le sacerdoce universel, dont tu as parlé aussi la semaine dernière, c'est-à-dire que nous sommes tous prêtres, n'est-ce pas ? Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Et enfin, il y a à Dieu seul la gloire, soli deo gloria. C'est comme ça que signait, comme tu nous l'as dit, Jean-Sébastien Bach, ses partitions. Donc, on va essayer de voir, d'approfondir un peu ces thèses du protestantisme. Alors, j'ai cherché... Qu'est-ce qui est... Oui ?
Il y a la grâce, d'abord.
La foi.
La foi.
La grâce, la foi, la Bible. Semper ferma reformanda, enfin se réformer sans cesse. Le sacerdoce universel et à Dieu seul la gloire. Donc, qu'est-ce que je veux, du coup, donc je vais reprendre. Donc, le vrai trésor de l'Église, c'est le sacro-saint évangile, donc la Bible, et la gloire, à Dieu seul la gloire, de la grâce de Dieu. Donc, on va voir un peu en quoi. À partir de ça, découle la théologie protestante. Juste pour revenir sur ces 6 principes, j'ai cherché vainement, j'ai interrogé y compris des historiens modernes, spécialistes du protestantisme. En fait, bon, la grâce et la foi, vraiment, on le trouve bien chez Luther, la Bible, on peut le comprendre, mais les autres, ils sont arrivés un peu après. On ne sait pas trop quand. Donc voilà. Vous dire de quand ça date. En tout cas, c'est pas écrit comme ça, ni chez Luther, ni chez Calvin, ni même après. Hein, se réformer sans cesse, par exemple, ça apparaît très clairement chez Karl Barth. Donc c'est beaucoup plus récent. Karl Barth, c'est 20e siècle, première moitié, enfin, au milieu du 20e siècle. Mais ça existe déjà avant, mais pas formulé comme ça. Donc je vais partir quand même du début de la Bible. Parce qu'à mon avis, tout vient de là. Vous vous souvenez certainement que je vous ai dit il y a 15 jours que Luther était professeur d'écriture sainte à l'université de Wittenberg, que la Bible avait été pour lui quelque chose d'essentiel, la lecture de la Bible. Déjà même avant, bien avant, quand il était encore à Erfurt, il a été bouleversé par la lecture de la Bible, alors à l'époque en latin, qu'il a trouvé à la bibliothèque d'Erfurt. Et puis quand il est devenu moine et qui s'est retrouvé à enseigner à Wittenberg, il était professeur d'écriture sainte, donc il approfondissait vraiment. Il était quand même, quand il a commencé à être moine, et même au moment où il a commencé à enseigner, encore hanté par cette histoire d'après-mort et par la culpabilité. Qu'est-ce qu'on devient il se trouvait tellement mauvais, tellement nul, tellement qu'il pensait qu'il ne pouvait pas être sauvé, que quoi qu'il fasse, il ne pouvait pas être sauvé. Mais voilà, donc il était hanté par tout ça. Et petit à petit, en lisant les Écritures, il va découvrir ce qu'on appelle la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Bon, tout ça, c'est un peu synonyme, en tout cas, en lisant les Écritures. Alors, on parle souvent de l'Épître aux Romains, évidemment, où on dit qu'on est justifié par la foi, que Dieu nous justifie par la foi. Il y a un verset de l'Épître aux Romains. Faut comprendre ce que c'est que justifier. C'est-à-dire que, je vais juste faire un petit point là-dessus, c'est-à-dire que c'est par la foi, on va voir un peu après ce que c'est, ce que Luther entend par la foi, que Dieu nous rend juste. En fait, Dieu nous justifie, il nous rend juste. On ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on est juste par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu et par la foi qui serait en quelque sorte la réponse. C'est-à-dire que il découvre que l'homme, tous les hommes sont pécheurs, bon ça il le savait, mais jusqu'à là, l'homme pécheur, dans sa théologie, ce qu'il avait appris et tout ça, était sauvé par ce qu'il faisait, c'est-à-dire que par ses mérites, par ses bonnes actions, c'est-à-dire que pour être sauvé et pour avoir accès au paradis, enfin je vais revenir, fallait faire des bonnes actions, fallait bien se comporter. Qu'est-ce que c'est que bien se comporter? Ça, c'est une question qui reste en suspens, justement. Et donc, il est accablé par ça, et petit à petit, en lisant les Écritures, mais l'Épître aux Romains, mais tous les Évangiles, et puis après, dans les lettres de Paul, et même la manière dont il lit l'Ancien Testament, il découvre dans les Écritures de l'Ancien Testament la grâce de Dieu. Donc, et particulièrement dans les psaumes, puisque c'est son premier, je vous l'ai déjà dit, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là, le premier texte important, enfin le premier texte qu'il écrit en langue allemande, c'est son commentaire des 7 psaumes pénitentiels. C'est pas rien, puisque on voit que là, il y a l'Écriture, et il y a le problème de la pénitence en même temps qui est lié avec tout l'accablement de l'homme pécheur. Et c'est à travers ces lectures qu'il découvre un tout autre visage de Dieu. Il va découvrir un Dieu d'amour, un Dieu aimant. Et là, c'est un bouleversement pour lui et ça va être un bouleversement pour nous encore aujourd'hui. Donc, je dis donc la Bible seule, donc il veut remettre, parce que lui a découvert à travers la lecture de la Bible, il veut mettre la Bible à disposition de tout le monde. Alors c'est pas tout à fait comme aujourd'hui, hein, à disposition de tout le monde, même s'il y avait l'imprimerie, c'était quand même des Bibles énormes, et elles étaient écrites en latin, on comprenait pas, donc il va très très rapidement traduire le Nouveau Testament en allemand, à partir du texte grec. Donc il y a toujours ce mouvement très intéressant qui est le mouvement de la Réforme, c'est-à-dire qu'on puise dans le passé pour ouvrir l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher le texte grec pour être très savant. Enfin, il faut des savants pour traduire, mais en tout cas, si on va chercher dans le passé, c'est certainement pas pour se conforter dans le passé et dire c'était mieux avant. Non, au contraire, c'est-à-dire qu'on va rechercher les racines, mais pour justement essayer de mieux comprendre et pour actualiser et même pour ouvrir l'avenir. C'est-à-dire que du grec, eh bien, il va passer à l'allemand, c'est-à-dire qu'il veut absolument que tout le monde ait accès au texte. Alors, tout le monde ne lit pas, mais le texte sera lu en chair. La semaine dernière, Louis a dit toute l'importance de la lecture biblique et de la prédication au sein du culte. Et donc, il veut vraiment que tout le monde ait accès à la Bible. La Bible seule, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie déjà que ça disqualifie en gros le dogme. Et le dogme de l'Église, c'est-à-dire que la vérité se trouve dans les Écritures. dans la lecture, la méditation, la prière, à travers les Écritures. Mais ça signifie autre chose qu'on oublie souvent à cette époque-là, c'est que les Bibles étaient, pleines de commentaires autour, c'est-à-dire qu'il y avait 4 versets sur une page et autour il y avait tout du commentaire, et en fait les gens lisaient le commentaire, ils lisaient pas la Bible, quand toutefois ils savaient lire, et donc la Bible seule, ça signifie aussi pour les réformateurs et pour Luther, c'est remettre le texte biblique et rien que le texte biblique, c'est-à-dire imprimer des Bibles en langue vernaculaire, dans la langue que les gens parlent, mais imprimer des Bibles sans commentaires. Ça, je pense que c'est important parce que à l'époque, le texte biblique était noyé au milieu de tous les commentaires plus ou moins bons. Puis bon, comme c'était aussi, ils avaient la plupart du temps des traductions de traductions de traductions, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément le latin Saint-Jérôme, ça avait été entre-temps remis à jour, mais donc c'était vraiment un texte qui était assez éloigné de ce qu'ils recherchaient. Donc la Bible seule, c'est à la fois remettre le texte biblique et que le texte biblique, c'est-à-dire que c'est au lecteur de devenir l'interprète du texte. Et je pense que ça, c'est un mouvement très important. Et donc, il y a aussi le fait que la Bible va disqualifier en quelque sorte le dogme et ce qui peut être dit. La vérité se trouve dans la lecture des textes. Ça, c'est quelque chose de très important, qu'on voit déjà dans les 95 thèses, à travers la thèse que je vous ai lue au début. Et puis, faites attention, en lisant les 95 thèses, la première et la dernière, il y a une citation biblique. Et puis alors, quand on lit Luther, il y a des citations bibliques partout. Et puis, de toute façon, je pense personnellement que son travail... Il y a deux Luther, il y a le commentateur des Écritures, et il y a le Luther beaucoup plus critique... est polémique, et ses écrits polémiques. Parfois, ça se recoupe, mais je pense que l'œuvre de Luther en tant que commentateur, ses commentaires bibliques sont absolument essentiels. Et même, je dirais que si vous voulez avoir une idée de la théologie de Luther, par exemple, ne serait-ce que la préface de son commentaire de l'Épître aux Romains est tout à fait éclairante. Donc, on voit bien que dans son travail, il a vraiment insister énormément sur ces commentaires bibliques. Donc, à la fois, il y a ce mouvement, parce qu'il n'a pas écrit que les 95 thèses, et donc déjà, en creux, y compris dans les 95 thèses, il remet en cause ce qui est purement humain et qui s'oppose donc à la conception de l'Église à l'époque. Par exemple, il veut remettre ce qu'il appelle purement humain, c'est ce qui n'est pas issu de l'Écriture. Ce qu'il en est par rapport au sacrement. Vous savez que chez les protestants, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 sacrements, alors qu'il y a 7 sacrements chez les catholiques. Il y a 2 sacrements, le baptême et la scène. Parce que le sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible, bon, ça, on va pas... Mais c'est aussi quelque chose qui est institué dans la Bible. C'est-à-dire que le baptême est institué dans la Bible et la scène est instituée dans la Bible. Les autres sacrements... Et il faut que ça soit pour tout le monde. C'est-à-dire que les autres sacrements ne sont pas institués dans la Bible. Donc voilà ce qu'il dit dans les thèses, si j'ai bien noté, 33-34. Il faut se méfier grandement de ceux qui disent que ces indulgences du pape sont dons de Dieu, inestimables, par lesquels l'homme est réconcilié avec Dieu. Donc, en effet, les grâces des indulgences concernent seulement les peines de satisfaction sacramentelle instituée par l'homme. Donc là, il pointe bien ce qui est institué par l'homme, et ce qu'il appelle, quand il dit institué par l'homme, ça s'oppose à ce qu'on trouve dans les Écritures. Donc à la fois, il s'y oppose frontalement, mais là, dans les 95 thèses, je pourrais dire qu'il remet en cause ce qui est un peu purement humain, institué par l'homme. Et puis, il met l'accent sur la parole de Dieu, mais tu avais déjà dû le dire la semaine dernière, mais bon, quand je ne me souviens pas de tout, je pense que je ne suis pas la seule à ne pas me souvenir de tout. Quand il dit « On fait injure à la parole de Dieu lorsque, dans le même sermon, on consacre aux indulgences autant ou plus de temps qu'à elles. » Donc, il veut vraiment remettre la lecture biblique. Ce qu'il appelle la parole de Dieu, c'est la Bible prêchée. En gros, pour faire rapide. Hein, c'est-à-dire que la Bible, c'est un bouquin. Bon, et à partir du moment où on la lit et qu'on la commente, et que là, elle peut devenir parole de Dieu. Faut pas confondre. La parole de Dieu, pour, en réalité, pour Luther et pour les réformateurs, et je dois dire pour les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Hein. Mais, donc, on voit toute l'importance de la Bible. Je dirais même que, alors, pour sortir du champ même ecclésial et même de Luther, le fait de remettre la lecture de la Bible au cœur de la foi du chrétien, puisque c'est cela en fait qui est fait, c'est le cœur de la foi, c'est la lecture, la méditation, la prédication de la Bible. À mon avis, ça a des conséquences sur l'éducation, parce que il faut que tout le monde ait accès. Alors à l'époque de Luther, tout le monde ne savait pas lire, mais dans le protestantisme, il va y avoir vraiment ce mouvement qui, au XIXe siècle, se traduit par la création des écoles du dimanche, donc en Angleterre, puis ça va essaimer un peu partout, où tous les enfants venaient et apprenaient à lire. Ils apprenaient à lire dans quoi ? Dans la Bible. Première partie du XIXe siècle. Et à ce moment-là, c'est la création aussi des sociétés bibliques, de la société biblique, puis des sociétés bibliques, où il faut absolument qu'il y ait une Bible par famille. Et que tout le monde sache lire la Bible. En général, c'est le père de famille qui lisait. Mais en fait, tout le monde devait avoir accès. Filles, garçons, ouvriers, grands nobles, enfin bon. Il y a vraiment eu un mouvement pour l'éducation, mais qui existe déjà chez Luther. Parce que si vous lisez bien les 95 thèses, il y en a énormément qui commencent par « il faut enseigner aux chrétiens ». Il faut enseigner en chrétien. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des idiots, à des imbéciles. Non, il faut enseigner. Et c'est un enseignement qui est intéressant, parce qu'il y a énormément de questions dans les 95 thèses. Et dans son petit catéchisme, il va un peu bouleverser la manière dont on enseigne, c'est que c'est en questions-réponses. Vous me direz, il pose des questions, c'est lui qui répond, il faut apprendre par cœur. Bon, c'est pas non plus hyper révolutionnaire, mais quand même, il y a déjà en germe tout ce questionnement et le fait justement qu'il n'y a pas... quelque chose, une vérité qui vient de l'Église en fait et qui doit être imposée, en fait elle vient de l'Écriture et de l'interprétation des Écritures. Bon, on n'est pas encore tout à fait là avec Luther, mais quand même il y a ça en germe chez Luther, dans les 95 thèses. En tout cas, c'est un vrai bouleversement, le fait de remettre ce texte là au cœur de la foi des chrétiens. En plus, c'est un texte difficile, il le sait. Il en rit parfois. J'ai beaucoup travaillé, entre autres, à partir du Cerf-arbitre, sa polémique contre Erasme. Et bon, voilà. Et il dit, en effet, c'est un texte obscur. Toi, tu comprends pas, mais c'est parce que tu n'as pas d'esprit. Hein. Tu n'as pas l'esprit de Dieu avec toi. Enfin, bon, bref, il est très sympathique avec celui contre lequel il se positionne. Mais voilà. Donc voilà un peu pour la Bible. Après, on va voir la grâce seule et la foi seule. Je vais un peu mêler les deux. Donc, en fait, vraiment, la critique des indulgences s'appuie sur sa découverte à travers sa lecture des Écritures et son enseignement et son partage, ses discussions avec ses étudiants, puis après avec d'autres professeurs, particulièrement son ami Mélenchon, qui va arriver à Wittenberg en 1518, et donc à partir de là, eh bien, il a découvert la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ça a été une vraie révélation pour lui, et donc la critique des indulgences se base avant tout là-dessus, sur le fait que l'Église ne peut pas vendre des indulgences. Alors, je vous rappelle un peu ce que c'est que les indulgences. C'est des bouts de papier qu'on vendait pour réduire le temps du purgatoire. Alors, la critique, il y a plusieurs critiques essentielles. La première critique, c'est que Luther dit que l'Église, de toute façon, ne peut absolument rien, ni même le pape, ne peut absolument rien pour ce qui se passe après la mort, puisque le purgatoire, c'est le temps qui est entre la mort et le paradis. Bon, Les très bons vont directement au paradis, les très mauvais vont directement en enfer, mais nous, on va aller au purgatoire, parce qu'on n'est ni très bon ni très mauvais. Déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit que l'Église ne peut pas donner ses grâces, donc, parce qu'elles appartiennent qu'à Dieu. Donc, en fait, l'Église n'a aucun, pouvoir pour donner ses grâces qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et que de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on achète ou pas les... Parce qu'il y a l'achat des indulgences vient en deuxième. Avant, il faut avoir obtenu l'absolution. Et pour obtenir l'absolution, il faut faire quand même quelques bonnes œuvres, quelques prières et tout. Et... Ouais. Et donc, il faut faire quelques bonnes œuvres et tout. Et même cela, ça ne nous permet pas d'accéder au salut. Parce que de toute façon, l'homme est mauvais, l'homme est pécheur, l'homme est faillible. Enfin bon, bref, il n'a pas une anthropologie très optimiste, Luther, encore que. Mais bon, si on commence par là, ce n'est pas très optimiste. Et le seul moyen pour être sauvé, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, fait que nous sommes sauvés. Voilà. Donc, il y avait plusieurs positions à cette époque-là. Et il y avait la position très ancienne de Pélage, ça donnait le pélagisme, qui disait que de toute façon on accédait au salut uniquement par nos bonnes œuvres. Et puis il y a une position un peu intermédiaire qui dit qu'il faut faire des bonnes œuvres, donc Dieu nous donne un peu, enfin bon bref. Et puis il y a la position qui est déjà celle d'Augustin, qui réfute complètement le pélagisme et qui découvre l'amour de Dieu et que de toute façon, il n'y a qu'une chose qui nous sauve et qui peut nous sauver, c'est Dieu. Voilà. L'affirmation de son salut dépend entièrement de Dieu et aucunement de nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs ça qui permet aux croyants, qui lui donne une certaine sérénité, parce que ça, on est quand même sous le poids de notre péché. Donc c'est ça aussi qui nous donne la libération, qui nous libère. On connaît nos péchés et nos erreurs, mais on sait que Dieu peut nous sauver. Donc, en gros, pour dire ce que c'est que la grâce, la grâce de Dieu. Alors, ce qui est un peu compliqué, ce que j'ai toujours un peu de mal à comprendre, et puis d'ailleurs même, je crois que je l'ai compris, mais ça ne me satisfait pas complètement, c'est cette histoire de foi. Parce qu'on dit qu'on est sauvé par la grâce seule et la foi seule. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi ? Alors, déjà, la foi, pour les réformateurs, pour Luther, c'est pas du tout un sentiment, une adhésion intellectuelle à une doctrine ou un sentiment qui nous pousserait vers Dieu. Et puis, c'est pas une décision de notre volonté non plus. C'est rien de tout ça. La foi, il faut entendre que Dieu, ce que Dieu fait surgir dans un être humain. En gros, la foi aussi vient de Dieu. Alors, elle n'est pas une œuvre, elle n'est pas quelque chose qu'on donnerait à Dieu, comme on donne sa confiance à quelqu'un, mais ça vient aussi de Dieu. Alors, ce qui est compliqué quand on dit ça, c'est quelle est la différence entre la foi et la grâce ? Moi, je ne la vois pas forcément, parce que si c'est Dieu qui donne la grâce et si c'est Dieu qui donne la foi, finalement, c'est la même chose. Alors, bon... Il y a beaucoup d'encre qu'on coulait là-dessus, sur ces deux expressions, pourquoi la foi seule et la grâce seule. Ben, c'est peut-être une manière de renforcer pour le dire vraiment bien, c'est vraiment la foi et la grâce de Dieu qui nous sauve, et même la foi nous est donnée par Dieu. Et puis peut-être aussi c'est une manière de se placer des deux côtés. La grâce, on est plutôt du côté de Dieu, et la foi, on est plutôt de notre côté. Voilà, c'est notre point de vue, et l'autre, voilà. Mais bon, je reste assez sceptique sur mon explication. Peut-être tu en as une meilleure, ou vous, je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, ça marche ensemble, la foi et la grâce. Je dis ça parce que aujourd'hui, dans nos églises, y compris protestantes, il peut y avoir une déviation, enfin, une tendance à faire de la foi une œuvre. C'est-à-dire qu'on doit prouver qu'on croit. Souvent, dans nos débats théologiques avec certains de nos collègues, on doit prouver qu'on croit. Alors, je ne sais pas comment on peut prouver qu'on croit, Mais à partir du moment où il faut donner des preuves de sa foi, c'est-à-dire en général bon, en agissant bien, à partir du moment où il faut des preuves de sa foi, ça devient une œuvre. Donc ce n'est plus du tout le sens de la foi qui a été donné par les réformateurs. Donc on a vu donc la foi seule, la grâce seule, à Dieu seul la gloire, et la Bible seule. Maintenant, j'aimerais un peu quitter tout ça pour... quelle heure il est ? Pour aborder un sujet encore plus compliqué, parce que là, c'était très simple ce que j'ai dit, sur Luther, qui est un homme du paradoxe, particulièrement à travers les termes liberté et servitude, puis Dieu caché et Dieu révélé. Chez Luther, il y a toujours deux choses en tension, hein. La loi, la grâce, mais ça, on comprend que ça puisse s'opposer. Mais de temps en temps, il défend deux choses qui semblent indéfendables en même temps. Par exemple, la liberté et la servitude. Où est-ce qu'il arrive à mettre ça en tension ? Alors, il dit que l'objet de la théologie, c'est que l'homme est coupable et perdu, et que c'est Dieu qui nous justifie et qui nous rend juste et qui nous sauve. Justifier et sauver, à la limite, ça veut dire pratiquement la même chose. Et on peut dire que personne n'a parlé à la fois de la liberté de l'homme en des termes absolument grandioses, surtout si on les remet dans le contexte, et en même temps de sa servitude en des termes aussi effrayants. Et d'ailleurs, il y a deux écrits tout à fait significatifs de Luther. Un qui date de 1520, qui s'appelle « Traité de la liberté chrétienne », et l'autre qui date de 1525, alors là, qui est contre Erasme, qui s'appelle « Du cerf arbitre ou de la libre ou que la libre volonté n'est rien ». Donc, je vais essayer de comprendre avec vous, ensemble, ce qui peut y avoir de positif et de riche dans la tension entre le fait d'être à la fois libre et en même temps, serf. Il y a les deux chez Luther. Vous me direz, je peux vous répondre de manière très simple, en citant Paul dans la lettre aux Galates, ça doit être au chapitre 5, qui dit « Vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un désir pour vivre selon les désirs de votre propre chair, enfin de vos propres envies, enfin voilà. Non ?» Mettez-vous au service, c'est-à-dire devenez esclaves les uns des autres, car la loi tout entière se résume dans cette unique parole, aime ton prochain comme toi-même. Donc on peut aussi gloser là-dessus, c'est-à-dire qu'on est libéré pour nous mettre au service des autres. Ça, c'est la version très simple. Je pense que chez Luther, il y a ça qui est vrai, mais il y a plus de tension que là. Donc alors, déjà, faut savoir ce qu'on entend par libre arbitre. Donc je vais vous donner une définition du libre arbitre, parce que libre arbitre, c'est pas je choisis comme je veux dans la vie. C'est pas du tout ça qui est traité dans chez Erasme. Voilà. Nous commencerons donc par la définition du libre arbitre. Cette définition, tu la formules ainsi. Oui, son copain avec Erasme. Nous entendons par libre arbitre la force de la volonté humaine grâce à laquelle l'homme peut s'attacher aux choses qui conduisent au salut éternel ou s'en détourner. En fait, le libre arbitre, il est tout à fait lié avec tout ce que je vous ai dit sur la grâce. C'est-à-dire que dans ce traité, je vous invite d'ailleurs parce que à lire, si vous avez le temps, ce traité du cerf arbitre là, parce qu'il est très intéressant. Et en plus, il y a des passages assez drôles, assez cocasses, donc vous pouvez y aller, c'est assez facile à lire. Et un peu moins à comprendre, mais bon. Le libre arbitre fait appel à la volonté. C'est-à-dire que nous, humains, nous aurions la volonté de faire ou de ne pas faire. Et entre autres, de faire suffisamment, puisqu'il dit la volonté grâce à laquelle l'homme peut s'attacher aux choses qui conduisent au salut éternel. C'est-à-dire que Erasme, même s'il a beaucoup de points en commun avec Luther, et même si je pense qu'il a influencé Luther, mais pas là-dessus en tout cas, Et pour Erasme, on est encore dans une théologie des œuvres où on a la volonté de faire les choses bien ou on peut ne pas faire le bien, en gros. Donc, et Luther va complètement déplacer ce problème-là en disant que de toute façon, déjà, on n'y arrivera pas. Et puis, ce n'est pas qu'une question de volonté. Et puis, à la limite, si on pense qu'on peut avoir suffisamment de volonté, ça va assez loin, si on pense qu'on peut avoir suffisamment de volonté pour faire les choses bien, c'est que quelque part, on se met à la place de Dieu. Bon, mais je vais y revenir, je vous vois, je vais y revenir. C'est quelque part, on pense qu'on a suffisamment de puissance pour tout faire bien. Or, c'est ça qui pointe, c'est qu'on n'a pas cette puissance. Et vous comprenez un peu mieux, mais bon, vous pourrez poser des questions, hein, parce que c'est pas... Mais d'abord, je vais revenir à ce qu'il dit de la liberté. Il dit « Un chrétien est libre et seigneur en toutes choses ». C'est bien, ça. Moi, ça me plaît bien. « Par Christ, il est un roi tout à fait libre, un prêtre qui a le droit et le pouvoir de se présenter devant Dieu ». Vous voyez là, tout à l'heure, quand je vous parlais de Luther, qui était un de ceux qui avait écrit les plus belles choses sur la liberté, voilà, si vous le remettez dans le contexte, je veux dire, un chrétien est un libre seigneur de toutes choses. Par Christ, il est un roi tout à fait libre, un prêtre qui a le droit et le pouvoir de se présenter devant Dieu. Donc on a cette liberté. Mais vous remarquerez toujours que quand on parle de liberté, c'est quand même en relation avec Dieu. Ce n'est pas de n'importe quelle liberté dont il parle. Hein. Ce n'est pas on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ce n'est pas ça. Mais il le dit aussi, cette liberté est pour l'amour du prochain. Et c'est parce qu'on est libre, parce qu'on est sous le régime de la grâce et non de la loi. La loi, elle est là pour nous enfoncer et la grâce, elle est là pour nous délivrer. En quelque sorte, on n'a plus le poids de la culpabilité. C'est pour ça que tout ça est très en lien avec la réflexion sur la grâce aussi. Et voilà. Et bizarrement, et aujourd'hui ça peut paraître étonnant, enfin, en tout cas, c'est vrai que souvent quand on dit, on parle des protestants, on dit oh, c'est bien parce que chez vous il y a le libre arbitre. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Les gens disent bah oui, vous avez le libre arbitre. En tout cas, c'est, tous ces écrits qui dénoncent le libre arbitre, en fait, vont être traités d'hérétiques. Alors, il y a la controverse contre Erasme, mais déjà, dans sa controverse d'Heidelberg en 1518, il avait déjà pointé tout ça. Lui, il reconnaît que la liberté comme quintessence de l'Évangile, mais en fait, c'est pas la liberté de la volonté humaine. En fait, la volonté humaine est à l'opposé de l'Évangile. Il n'est pas vrai, nous dit-il, que la volonté puisse par nature se conformer au commandement juste. C'est-à-dire que notre volonté ne va pas automatiquement nous faire que nous obéissons au commandement juste. Il va même plus loin. Il dit « L'homme ne peut vouloir naturellement que Dieu soit Dieu. Au contraire, il aimerait être lui-même Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu. »
C'est Freud qui a dit ça aussi.
Voilà.
On est
sauvés. Oui, non, mais... Voilà. En fait, tout à l'heure, quand je disais que si par notre propre volonté, on pense qu'on peut arriver à être parfait, en quelque sorte, c'est une manière de se mettre à la place de Dieu. Et ça ressort là de manière différente, c'est dit différemment. L'homme ne peut vouloir naturellement que Dieu soit Dieu, au contraire, il aimerait être lui-même Dieu et que Dieu ne soit pas Dieu. Nous sommes donc captifs, en fait, de notre péché. En fait, donc, mais cette liberté et cette captivité, en quelque sorte, pourraient sembler tout à fait en opposition, mais elle forme quand même un ensemble plus ou moins cohérent. Mais de toute façon, je pense que la recherche de cohérence, ce n'est pas non plus le but ultime de Luther. Hein, je veux dire. Et je pense que même ces paradoxes sont intéressants. Et c'est moi ça que j'aime chez Luther, c'est qu'on voit qu'il lutte, qu'il cherche, qu'il est en train de construire quelque chose de nouveau. Et automatiquement, bah, de temps en temps, il y a des choses qui semblent étonnantes, contradictoires, mais bon. La déclaration donc, de nullité du libre arbitre nous dit ce qu'est en réalité la vraie liberté. C'est-à-dire que lui, il explique qu'on peut comprendre ce qu'est vraiment la liberté à partir du moment où on accepte la nullité du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il faut accepter notre servitude, tout ce qu'on doit à Dieu, en fait, pour dire, pour comprendre ce qu'est vraiment la liberté, au sens évangélique. Parce que le libre arbitre, c'est l'attribut de Dieu, et uniquement de Dieu. Pour Luther, bien sûr, le libre arbitre, c'est pas du tout par rapport aux choses de ce monde. Il dit pas que dans la société civile, comme on dirait aujourd'hui, on n'a pas à faire preuve de libre arbitre. Non, il parle d'un libre arbitre par rapport à Dieu. La manière dont on se présente devant Dieu, ce coram Deo devant Dieu, est absolument essentielle pour comprendre Luther. Ça revient tout le temps. C'est-à-dire qu'on se présente devant Dieu. Et l'être humain en entier se présente devant Dieu. Il n'y a pas le corps, l'esprit, le machin, il n'y a pas toute cette dichotomie. Et l'être humain, il est humain pleinement que face à Dieu et que devant Dieu. Hein ? On n'est pas humain parce qu'on raisonne. On n'est pas humain parce qu'on essaye de faire les choses, non, on est humain, oui. On est humain parce qu'on est face à Dieu, voilà, dans la relation avec Dieu. Mais dans cette relation-là, le libre arbitre, donc c'est devant Dieu. Et ça nous dit aussi, ce libre arbitre, que c'est pas Dieu qui doit obéir à l'homme, c'est-à-dire Dieu, il est quand même profondément différent de l'homme. C'est l'homme qui obéit à Dieu. Mais étonnamment, c'est l'obéissance à Dieu qui nous libère. Mais bon. Entre l'homme et Dieu, il ne s'agit donc pas d'un rapport de force. Nous sommes dépendants de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a tort. On est dépendants de Dieu. Il est à la fois notre source et notre être et notre horizon. Je pense qu'il m'ont être... et puis ça va déboucher sur la manière dont il parle de Dieu aussi, qui est différente. Tu l'as un peu abordé, mais je vais le dire. Enfin, tu l'as bien abordé la dernière fois. Je vais le dire peut-être un peu différemment. Dans sa controverse avec Erasme, il parle de la faiblesse humaine et bon, mais ça reprend aussi beaucoup, c'est très paulinien, hein, pour ceux qui connaissent un peu Paul, c'est très paulinien. Je pense que le geste premier, c'est de se reconnaître pécheur. Et à partir de là, ce n'est pas à cause de la faiblesse de notre esprit, comme tu le prétends, il parle à Erasme, que la parole de Dieu n'est pas comprise, au contraire. Rien n'est plus propre à saisir cette parole que la faiblesse de l'esprit. Car c'est pour les faibles d'esprit que Christ est venu, et c'est à eux que sa parole s'adresse. Donc, encore un paradoxe, mais quel paradoxe des béatitudes aussi, hein, je veux dire, qu'on retrouve chez Paul. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est faible, qu'on est pécheur, qu'on est limité et tout ça, qu'eh bien, qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Au contraire, faut une fois qu'on a accepté cela, eh bien, au contraire, on est encore plus en relation avec Dieu. Et ça, c'est une image de l'humain qui est intéressante, mais qui est presque, comment dire, qui est à l'image du Dieu de Luther, presque. Parce que chez Luther, la dernière fois, on a parlé de la théologie de la croix. Je vais y venir un peu. Bon, la théologie de la croix, c'est un gros morceau, mais... et puis on en a beaucoup parlé, on a beaucoup glosé autour. C'est pas si net chez Luther que ce que veulent en faire les luthériens aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle les néo-luthériens. Et puis chez Luther, vous savez, comme je dis, c'est un paradoxe. Mais pour Dieu, vraiment, pour Luther, vraiment, c'est un Dieu caché et révélé. Et Dieu se cache sous son contraire. Et Dieu, en fait, s'est caché sous son contraire, c'est-à-dire sous l'humain, qu'est le Christ. Qu'est le Christ qui a souffert, qui a été humilié. Et donc, je pense que Dieu se révèle à travers le contraire des images qu'on a envie de mettre sur Dieu. Et je pense que la personne du Christ est au centre de la réflexion, de toute la réflexion de Luther et de toute sa théologie. La théologie de Luther, c'est vraiment, elle se joue en Christ. Alors, on a souvent dit que c'était la théologie de la croix. Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'en pense, moi, de la théologie de la croix de Luther, en tout cas. En tout cas, on le trouve un peu dans les 95 thèses, la thèse 68, donc parle des indulgences. Pourtant, elles sont en réalité bien peu de choses comparées à la grâce de Dieu et à la miséricorde de la croix. Donc, et un peu dans le thèse 79, mais de manière un peu moindre, dire que la croix érigée de manière éclatante dans les armes du pape vaut autant que la croix du Christ est un blasphème. Bon, ben là, c'est plus controverse anti-papiste que... Mais disons que la croix est quelque chose d'essentiel. C'est pas pour ça que la résurrection n'a... Je pense qu'il faut lire la croix à partir de la résurrection. Et Luther lit la croix à partir de la résurrection. Mais quand même, il s'intéresse beaucoup. Pour lui, la croix révèle à l'être humain, de manière tout à fait paradoxale, qui est Dieu. Ce Dieu qui meurt sur une croix échappe complètement donc à nos catégories mentales et à nos représentations habituelles de Dieu. C'est un scandale, mais ça c'est dit aussi chez Paul, hein, quand il dit que nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Grecs, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. C'est un scandale dans la mesure où Dieu se révèle là où jamais on ne l'attend. Le Dieu de Jésus-Christ est toujours à l'envers de ce que les hommes appellent Dieu. Luther donc élabore toute sa théologie en partant de la personne du Christ, ce qui veut dire que pour trouver Dieu, il faut partir en fait du Christ. Cette démarche se trouve tout à fait déjà dans l'affirmation de Paul, dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, puis dans le deuxième aussi, il dit « car j'ai décidé de ne rien savoir parmi nous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». Donc, si on pousse trop la théologie de la croix, on oublie, puis il faut le remettre dans le contexte dans lequel ça s'inscrit, hein, je veux dire. Donc, il remet, en lumière la personne du Christ. Il développe particulièrement cette théologie de la croix dans ce qu'on appelle la controverse de Heidelberg, en 1518, donc, dans laquelle il écrit un certain nombre de propositions. L'opposition donc, entre les œuvres et la foi, entre la théologie de la gloire et la théologie de la croix. Il cite également donc, « Christ nous a libérés de la malédiction de la loi », parce qu'il interprète la croix comme étant le fait que le Christ soit mort en croix, révèle un Dieu qui est caché et qui s'est révélé un Dieu d'amour sur la croix et par la résurrection aussi. Et il va mettre le focus plutôt que sur la gloire de Dieu, d'un Dieu très glorieux, très victorieux, qui peut tout, etc. Il rappelle que Dieu, quelque part, à travers la personne du Christ, a souffert. Et que c'est là que se révèle son amour. Et surtout, il dit, alors moi, là-dessus, je suis pas entièrement d'accord, que au moment de la croix, est crucifié également Adam à travers la personne du Christ. C'est un nouvel humain. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dedans, mais enfin, c'est comme ça à l'époque de Luther. C'est-à-dire que c'est le péché originel qui existe encore, mais qui est quand même crucifié à la croix. C'est-à-dire que si on veut devenir pleinement humain, il faut passer par le Christ et il faut passer par la croix pour comprendre vraiment qui est Dieu et qui on est libéré de ce péché qu'on a été libéré sur la croix. Alors, c'est toujours très complexe parce que j'ai beaucoup de mal avec toute la théologie sacrificielle. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement ça chez Luther, mais encore un peu. Et puis la théologie de la croix aujourd'hui, elle est très doloriste. Donc, c'est Dieu qui souffre avec nous, Dieu qui pleure avec nous. Je ne dis pas qu'elle est complètement inintéressante. C'est la théologie poussée au bout de la mort de Dieu. Bon, qui est intéressante parce qu'en réalité, ce n'est pas la mort de Dieu, c'est la mort des images qu'on peut avoir sur Dieu. En tout cas, l'intérêt de cette théologie de la mort de Dieu, c'est une théologie qui nous invite à chercher Dieu là où on ne l'attend pas. Et en tout cas, à accepter Dieu là où on ne l'attend pas. En gros, ça veut dire qu'il faut accepter l'inattendu dans nos vies, qui parfois est joyeux, parfois plus difficile, Et c'est essayer de trouver Dieu, bah, pas forcément... pas faire Dieu à notre image. Comprendre que nous, on est peut-être à l'image de Dieu, mais en tout cas, Dieu n'est certainement pas à notre image. Et puis, je voudrais terminer... puis, j'imagine que vous allez avoir des questions. J'espère que Louis pourra compléter un peu. Je voudrais terminer par la dernière phrase et dernier mot écrit par Luther, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut entendre et puis qu'on peut... C'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup et qui correspond bien avec cette image d'un Luther qui cherche, qui trouve pas toujours et qui cherche encore et qui est un homme du paradoxe. Mais finalement, la théologie de la croix, c'est bien le paradoxe même. Je veux dire, c'est l'oxymore. Je veux dire, un Dieu qui se révèle dans la mort, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Je veux dire, le christianisme est une religion du paradoxe. Donc, après, il faut essayer de mettre tout ça en tension. C'est plus compliqué. Mais voilà les derniers mots écrits par Luther. Nous sommes tous des mendiants, cela est vrai.